Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est un enfant à la santé fragile, très attaché à sa mère. Il vit à Paris, mais passe ses vacances en Normandie. Le soir, il se couche tôt, lit un peu, puis éteint. Parfois, il s'endort très vite, presque par surprise. Quelquefois, il se réveille ensuite brusquement, quelques minutes plus tard, inquiet, sans savoir où il se trouve, s'il est dans le livre qu'il lisait, en train de s'endormir, ou à la fin de la nuit, enfin, quand il pourra appeler, se lever. Ses premiers souvenirs datent de là, de ce moment délicat de l'endormissement, ces limbes d'inquiétude où il faut lâcher le monde des adultes et celui du jour, accepter de quitter la lumière, de partir dans la nuit. D'autres fois, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Les scènes et les images de son livre tournent et retournent dans sa tête, il s'y perd. À la campagne, c'est pire. Le moment de se coucher, de se retrouver tout seul dans sa chambre, loin de sa mère et de sa grand-mère, devient alors un point d'angoisse qui diffuse toute la journée. Pour le calmer, on a bien inventé une drôle de lanterne fixée sur sa lampe de chevet qui projette des images partout dans la chambre. Un vilain chevalier sort d'une forêt en galopant vers un château où vit une pauvre princesse qui apparaît sur les rideaux de la chambre, envahit la pièce et toute l'imagination de cet enfant qui raconte bien mieux que moi, des années plus tard, ses premiers souvenirs d'enfance, son traumatisme originel, on dirait aujourd'hui, et bien d'autres histoires. Retrouver ses souvenirs, ceux de son enfance et les autres ensuite, les reconquérir un à un et les écrire, ça va devenir le job de sa vie, son grand projet, sa recherche. Et c'est heureux. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, à leur façon, ce sont de petits Marcel qui racontent leurs tout premiers souvenirs d'enfance, leur scène originelle, par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mon premier souvenir d'enfance, c'était aux alentours de 4 ans, ou entre 4 et 5 ans, je pense. Et je montais dans les arbres, et j'adorais monter dans les arbres. Et juste à côté de là où je montais dans les arbres, il y avait un petit muret en pierre. Et d'un côté, il faisait 1m50, quelque chose comme ça. Ça bordait la fin du parc de la résidence dans laquelle j'habitais. Et de l'autre côté, il y avait un grand trou de 4 mètres. Et donc, il ne fallait pas tomber de l'autre côté. Souvent, on marchait sur ce muret, on s'asseyait sur ce muret. Et un jour, j'ai décidé de faire la course. Donc, je suis parti d'un bout du muret jusqu'à l'autre. C'était un muret qui n'était même pas plat. Et à un moment, j'ai dû m'emmêler les pieds et je suis parti en vol plané. Et pendant la seconde où j'étais en l'air, je savais que d'un côté du mur, si je tombais d'un côté, j'étais mort. Et de l'autre côté, je pense que ça passait, et j'ai fini par tomber du bon côté, allongé sur un énorme tapis de feuilles. J'ai eu une chute toute douce, tout le corps dans les feuilles, les bras écartés, la tête et le nez dans des feuilles qui sentaient bon, c'était devait être l'automne, et je suis resté les yeux fermés pendant quelques secondes, et je me souviens d'un sentiment extraordinaire de bonheur de ne pas être mort, tremblant de joie. Je crois que c'est de la chance, c'est tout. Et je pense que c'est la première prise de conscience de la mort quand j'étais petit.
Le facteur n'est pas passé. Bring, bring, le voilà. Fermez vos petits yeux en chocolat et comptez jusqu'à 3. Regardez derrière vous.
Ouh, la pension. L'arrivée en pension. Voilà, d'avoir à quitter la maison et de me retrouver en pension. Ça, je pense que c'est vraiment le premier gros traumatisme. En pension à Vaucresson, dans la banlieue de Paris. On parlait pas à l'époque, hein, on racontait pas. Les parents s'étaient séparés, mais ça, on nous le disait pas non plus. Donc ma mère avait disparu. Je me souviens juste qu'un jour, on nous a dit, bah voilà, vous partez, vous reviendrez plus. Je sais plus qui nous a dit ça, mais enfin bon, ça a été extrêmement rapide. Je veux dire, au moment où on nous l'a dit, une heure après, on était parti, quoi. Et puis c'était fini. Donc ça, je pense que c'est vraiment le gros traumatisme. Ça a été dur. Donc au niveau des objets aussi, ça a été dur. La séparation, truc tout con, parce qu'à l'époque, on n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas 10 000 jouets. On avait un truc auquel on tenait, quoi. Donc moi, j'avais mon armoire et mon ours. Voilà, c'était les deux choses. Donc l'ours, j'ai pu l'emmener. L'armoire, non. Je me souviens du chagrin d'avoir à quitter cette armoire. Ça, c'était des points de repère. Donc tout d'un coup, plus de points de repère. Je me souviens de l'arrivée en pension parce que la première chose qu'a fait la directrice, c'est quand même de me confisquer mon ours. Alors là, ça a été juste le drame absolu. Elle m'a dit non, il reste dans la valise qui était au grenier. Il mettait toutes les valises au grenier. Et heureusement, ma sœur s'est débrouillée pour aller me rechercher mon ours parce que là, c'était trop, quoi. Après, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Voilà, parce que 6 ans, c'est quand même... Et puis en plus, comme j'étais la plus jeune, j'avais pas de copine. Et on me balançait d'un dortoir à l'autre parce qu'on savait pas très bien où mettre. J'étais trop jeune, en fait. Donc les autres étaient tous plus vieux. Je veux dire, à 6 ans, il n'y a quand même pas beaucoup de parents qui mettent leurs enfants en pension à 6 ans. Hein. Même à l'époque, hein, c'était quand même rare. Je me sentais complètement extérieure, en fait, à l'histoire. Quoi. Je me souviens pas d'avoir pensé quoi que ce soit. Je captais pas ce qui se passait. Je me disais, voilà, t'es là. Point. On attend que ça passe. Et je me souviens que mon point de repère à Vaucresson, on ne devait pas être loin d'une route où il y avait des voitures qui passaient avec des phares. Et dans ma tête, j'étais persuadée que c'était le phare de la Tour Eiffel qui tournait. Et quelque part, ça me rassurait de savoir que je voyais le phare de la Tour Eiffel. Je me disais, je ne dois pas être si loin quand même de la maison parce qu'il y a le phare de la Tour Eiffel que je voyais. Et chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, ça me reconnectait à la maison, à ma vie d'avant, etc. Et après, j'ai mis très longtemps à comprendre que la Tour Eiffel de Vaucresson, c'est pas possible, juste. Je me souviens aussi que c'était avec les arbres, c'était un point de réassurance. Il y avait 3 marronniers, mais des vieux marronniers. Voilà, superbes. Et c'était mes copains. Je les enlaçais, je faisais le tour indéfiniment, je les caressais, je leur racontais ma vie, je leur racontais mes soucis, etc. Et je m'en sentais plus forte. Je pense que toute petite, j'étais au contact des arbres et qu'ils pouvaient pas me faire de mal. Et puis surtout, ils pouvaient pas être déménagés non plus, hein. Par rapport à mon armoire, un arbre, ça reste là où c'est, ça pouvait pas être déménagé, un arbre. Voilà. Donc c'était une sacrée sécurité. Ça a des racines, ça bouge pas, donc on peut compter sur lui, en fait. Alors il y avait des cours, sûrement. J'en ai aucun souvenir des cours. Alors par contre, si j'ai retrouvé un carnet de Vaucresson, justement, de cette année-là, où il y avait marqué que j'étais trop distraite, que j'écoutais pas ce qu'on disait en cours. Et la directrice qui écrivait à un moment, au bout de 2-3 mois de pension, qui écrivait « Si ça continue comme ça, on va être obligé de garder Dominique hors tenue les week-ends. » C'est-à-dire qu'à 6 ans, quand même, les directeurs se permettaient, dans une situation pareille, se permettaient de faire des retenues, d'empêcher les enfants de retourner au week-end chez eux, quoi, sous prétexte qu'elles n'écoutaient pas en classe. C'est difficile de grandir comme ça, mais c'est une sacrée formation. C'est une sacrée formation, ça vous rend costaud. Si on tombe pas, c'est sûr.
Souris verte qui courait dans l'air, je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs.
Je m'appelle Solal. J'ai 6 ans. Mon premier souvenir, c'était quand je m'étais planté une aiguille dans le pied et que j'étais allée à l'hôpital. J'avais très mal. J'avais pleuré. Je m'en souviens plus. Je sais plus trop.
Moi, je me souviens de quand j'étais allée à une plage et que j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau qui montait. J'avais vu mon pantalon, je suis tombée dans l'eau avec mon pantalon.
Alors, mon premier souvenir, c'était vers l'âge de 3 ans. Je me rappelle d'un mobile au-dessus de mon lit. Dans cette chambre à peu près obscur, où mon père me disait « Allez, maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. » Alors, il faisait tourner un peu mes rêves, des avions de couleur jaune, rouge. Il y avait à la fois des étoiles, des avions assez vieux, des biplans, je m'en souviens. Le mobile était en bois. Il faisait un tout petit bruit quand il tournait. Clic, clic, toutes les 2-3 secondes. Et ça m'aidait à m'endormir. Bah, c'est peut-être grâce à ce mobile que donc j'ai fait des rêves d'avion. Et peut-être ces rêves, je voulais qu'ils deviennent réalité. Peut-être moi, pilote de l'avion. Et c'est ce que, pendant ma première partie de l'enfance, c'est ce que je voulais réaliser comme rêve. Je rêvais de ces avions-là et je voulais que ça devienne réalité quand je me réveillais. Bah, ces avions qui partaient de ce mobile pour s'envoler dans la chambre et ensuite passer par la fenêtre, s'élancer dans le ciel, etc., dans le ciel étoilé. Et c'était, je trouvais ça magnifique, ces rêves-là. Donc voilà, j'ai quelques images comme ça, mais floues. Mais oui, je voulais faire un métier en rapport avec l'aviation. Donc j'ai suivi plusieurs formations. J'ai passé mon brevet d'initiation aéronautique quand j'étais en 3e. Et donc j'ai réalisé plusieurs vols d'initiation à l'âge de 11 ans, 12 ans et 13 ans. Et au moment des vols qui étaient compris dans le brevet d'initiation aéronautique, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu cette passion. L'instructeur n'était pas forcément très sympa avec moi. Il m'a pas donné envie de continuer l'aventure, quoi. J'ai perdu ce rêve-là. Même si l'aviation me rappelle l'enfance, les voyages, de la douceur aussi. Il y a beaucoup de douceur quand on est enfant et qu'on s'endort comme ça, qu'on n'a pas beaucoup de problèmes, que demain on va peut-être aller à l'école et tout. Donc oui, il y a pas mal de douceur et cette douceur est associée aux avions, aux mobiles. Comme le mobile, c'est un cercle. Maintenant, je suis un peu sorti de ce cercle-là, mais je veux pas forcément y retourner. J'aspire un peu à d'autres sphères, voilà. C'est vrai que je suis pas tout à fait satisfait de la situation. Un rêve, c'est voir la réalité sous un prisme différent. Et donc on peut peut-être dire que cette réalité n'existera jamais pour moi. Mon esprit s'est peut-être trompé alors que mon corps voulait y aller, quoi. Vous voulez faire pilote de ligne. On peut y croire, mais on a tellement de choses qui rentrent dans notre tête qu'on peut pas laisser place au rêve. Il y a beaucoup moins de place au rêve que quand on est petit. On peut toujours rêver, mais plus on grandit, plus il y a une connotation péjorative à la phrase « on peut toujours rêver ». Alors que quand on est petit, on rêve tout le temps. La vie, c'est de rêver. Je viens juste d'avoir 17 ans. Le problème avec ce rêve perdu de pilote de ligne, c'est que maintenant, j'ai plus trop de repères. Et en perdant ce repère-là, je sais plus trop ce que je veux faire. C'est pas grave pour l'instant, mais les profs nous mettent énormément la pression pour le bac. Pour les professeurs, c'est grave. C'est pas leur vie, mais ils veulent qu'on réussisse, qu'on sache exactement quoi faire, etc. Parce que aujourd'hui encore, on n'a pas le droit d'être perdu. On est toujours obligé de savoir où on va. C'est mal vu, je pense, d'être perdu. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est la crise d'adolescence. On est toujours énervé contre ses parents alors qu'on veut pas forcément. C'est qu'ils deviennent vieux alors que j'ai pas encore complètement fleuri. Et j'ai redécouvert ce mobile il y a 3 mois dans le grenier. J'ai rouvert les cartons et je revoyais le mobile qui tournait à nouveau. Ça a été un grand bonheur pour moi.
Il fait la roue
avec ses grandes écailles. Il est hyper grand.
Je crois qu'il peut pas s'envoler. C'est génial. Vous avez vu la petite houppette?
Oui.
Cette petite houppette. On essaie d'aller voir le pan blanc, nous?
Oui. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7.
Je me rappelle que mon grand-père arrosait toujours tout autour de moi pour qu'il y ait de la fraîcheur. Et ça, je les ressens encore maintenant quand je ressens une odeur et ces vapeurs, toute cette chaleur qui s'évapore. Ça me replonge dans mon enfance.
Et je me rappelle d'avoir été dans le placard, dans le noir, au milieu des jeux de société. Je pleurais parce que j'avais peur. Et en fait, moi, pour me venger, entre guillemets, j'ai détruit tous les jeux de société qu'il y avait à l'intérieur.
Mon grand-père arrive dans notre chambre, je devais avoir 4 ans, je pense. Et donc, il m'a attrapé, tout rouge, il m'a mis sur ses genoux, il m'a mis une fessée directement sur les fesses. Pas trop forte quand même, mais j'ai eu un petit peu mal, quoi.
62.
J'avais ma petite boîte. Et maman, elle me mettait souvent du poisson, des pâtes.
Je me souviens de ça. Je me souviens assis sur la table basse en train de manger des coquillettes avec du jambon et de regarder je sais quel dessin animé à la télé.
114, 115, 116.
C'est bon, c'est bon.
Non, c'est papy.
Oui.
C'est là.
Qui pioche, mon ange?
Au contraire. Ah.
0-0-0.
Ah, papy, il t'aide un peu, hein, on dirait. On recommence ?
Mon premier souvenir difficile, c'est la mort de mon grand-père, que j'aimais énormément. J'avais 10 ans. De plus revoir, quoi. Je me sentais proche de lui. C'est la première mort importante qu'on m'a annoncée. Je savais qu'il était très malade, on habitait dans la même maison. Il avait été opéré. On m'avait fait comprendre que ça se passait pas bien, qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Mais c'est quelqu'un qui était très optimiste et très confiant. Et je pense que le fait qu'il ait connu la guerre 14 dans les tranchées lui avait donné une certaine force de caractère et une certaine tranquillité dans l'existence. Il m'avait dit, de toute façon, ce que j'ai vécu, ça m'est égal. Il avait une bonhomie naturelle. Il était très tolérant. Il écoutait les gens. Il ne voyait jamais le mal chez les autres. Donc c'était rassurant, ça. Moi, j'ai adoré mon grand-père. Enfin, c'était un papy gâteau. Hein. Donc toujours gentil. Donc c'était l'incarnation de la bonté pour moi. Et donc j'ai ce souvenir d'un conteur apaisant qui racontait des histoires qui vous donnaient envie de dormir tranquillement. C'est l'homme que j'ai le plus aimé, si j'ose dire. Ma mère m'a emmené dans la pièce pour que je le voie une dernière fois, avant qu'on le mette dans un cercueil. Je voulais pas aller y aller, j'avais peur, j'avais jamais vu un mort. Je voulais pas entrer, ma mère dit viens quand même. Bon, ma mère était croyante, alors elle voulait faire une prière. Elle m'a dit, mais viens, on dirait qu'il dort. Alors, ça m'a rassuré. Donc je suis allé devant son lit, et puis je l'ai vu là, les yeux fermés, le silence. Et ça m'a marqué. Je pleurais. Ouais. Je vais vous dire une chose, c'est bizarre. Quand ma première fille est née, qui a 34 ans maintenant, sa mère et moi, nous n'avions pas voulu savoir si c'était un garçon ou une fille. Bon, donc quand elle est née, la tête est sortie en premier. Et bizarrement, je me suis dit, tiens, on dirait mon grand-père. c'est aberrant. Hein. En fait, c'était une fille. Mais on l'a vu qu'après. Mais ça veut dire que probablement que j'avais en moi ce désir de retrouver mon grand-père, une espèce de continuité. Je vais avoir 70 ans bientôt, dans quelques mois. Mais c'est vrai, pour moi, mon grand-père, ça reste quelqu'un qui est présent pour moi. 60 ans après, quoi. Parfois, je me dis, le jour où je vais mourir, je penserai à lui.
Tu veux plus ? Bien, voilà. Est-ce que tu veux un petit peu de petit suisse ? C'est difficile, hein, de sillonner sa mémoire parce que c'est un peu flou, c'est un peu loin aussi, c'est long. J'arrive pas. Je sais pas, je vois pas quelle forme à ma mémoire. C'est sûrement un ensemble de boîtes qui seraient rangées dans un endroit que je connais pas, quoi.
Ça sert à se souvenir des choses qu'on se souvient plus.
Mon premier souvenir, c'est le sourire de ma maman. Et j'ai vraiment, en mémoire, ce moment où elle se penchait sur mon berceau, et je reconnaissais effectivement ce sourire merveilleux, en gros plan, avec ce rouge à lèvres, ses dents parfaitement alignées. Enfin, je vois pas le nez, je vois pas les yeux, je vois juste le sourire. J'ai une grande affection pour ma maman. On a 30 ans de différence. Enfin, elle a 90 ans. Elle a toute sa tête et j'ai encore à bénéficier de son sourire. Et petite anecdote, elle a dû se faire refaire la dentition. J'ai pris le temps de faire des points critiques auprès du dentiste pour faire des ajustages. Donc j'ai eu le bonheur de me souvenir justement de ce premier émoi que j'ai eu vis-à-vis de son sourire et de corriger quelques détails. Moi, je suis même plasticien sculpteur, donc j'ai une vision du sens de la forme et du rythme. Et donc j'ai embêté le dentiste en lui disant « Ah, il faut que cette dent soit comme ça, plus comme ça, moins comme ça. » Je crois qu'on lui avait amené une photo aussi de son sourire pour que le sourire soit conforme. Voilà, elle est très coquette, ma maman. Et quand elle est de sortie, elle met toujours un rouge à lèvres très marqué. C'est un rouge assez sombre. Voilà, c'est un rouge Chanel.
Bien, voilà. C'est fini. Le tout premier souvenir, les premières sensations, je pense que c'est des sensations de peur de mon entourage dû à ma maman qui était quelqu'un de violent, qui n'allait pas bien et donc qui se défoulait un peu sur nous. Et de vivre dans la peur, de tout le temps être en contrôle et de tout le temps faire attention. Mes souvenirs remontent à peu près à 8 ans parce que je pense qu'avant, cette peur-là faisait que tout était sous une chape de plomb, comme si je ressentais pas les choses. J'ai dû enfouir ça pour pas faire remonter la douleur de vivre ça. Je sais juste cette sensation de peur que j'avais. Petit, je voyais ma mère immense et qui criait, et les sensations, c'est d'être un peu tétanisé devant elle. Voilà, ces sensations, c'est ça qui vient. J'ai pas de flash, j'ai juste son visage qui se penche sur moi et qui est agressif. Voilà. Quelqu'un qui déborde de colère et d'agressivité et la sensation d'être vulnérable et d'être incapable de me défendre et de me protéger. Je ne pouvais pas me protéger. Et puis bon, ma mère était à la maison, mon père travaillait, donc j'allais dire on l'avait tout le temps sur le dos. Et mon père n'était pas là et quand il était là, de toute façon, il fuyait pour lui-même pas être embêté. Et c'est vrai, très peu de souvenirs en fait, très peu de souvenirs. Et s'il y a quelque chose qui me revient d'un coup, c'était quand elle me regardait et qu'elle me disait « crève ». Crève, ça j'étais petite, j'avais peut-être 5 ans. C'est un mot voilà, qui m'est resté. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'enfant, parce que je pense que quand une mère vous met au monde des enfants et qu'après elle transmet ça, ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas se construire et construire une famille soi-même quand on vous a transmis ça. À 7 ans, c'est l'âge de raison. Là, j'ai compris qu'il y avait des mamans qui étaient douces avec leurs enfants et j'ai vu la différence. Je n'en étais pas consciente avant. J'ai un souvenir, je suis partie en colonie, enfin en classe de neige, et j'avais une dizaine d'années, et la maîtresse passe dans les chambres, Et elle me souhaite une bonne nuit, elle me fait la bise et elle me dit « Ah, tes cheveux, ils sont soyeux » parce que j'avais un shampoing, elle me demande la marque. Et elle met la main dans les cheveux et elle est partie et je pleurais. Voilà. Parce que c'est la première fois que j'avais une marque de tendresse. Et j'étais consciente qu'elle m'apportait de la tendresse, que j'en avais pas chez moi et que ça me manquait. Si, alors une parole d'amour, oui. Parce que j'ai quand même fait un travail sur moi. J'étais bien obligée avec l'enfance que j'ai eue pour me sortir de ça. Et 6 mois avant sa mort, on s'est trouvé. Je lui ai envoyé une lettre d'amour. Et à partir de ce moment-là, ma mère s'est complètement changée de comportement. Comme si elle s'est dit, il y a une personne dans ma vie qui m'aime, c'est ma fille. Il y a un mur qui s'effondrait entre elle et moi, et elle m'a plus vue comme la mauvaise fille, parce que j'étais aussi après devenue la mauvaise fille. Et elle a été une mère douce, tendre. Et du coup, on est allé faire des magasins ensemble. Ah, tu veux t'acheter quoi et tout? Une vraie maman, quoi. Et malheureusement, je l'ai perdue 6 mois après, mais j'ai eu une maman pendant 6 mois. La mère que j'ai eue pendant ces 6 mois, je l'ai aimée. Et elle m'a aimée.
C'était Des souvenirs d'enfance, les tout premiers par Élise Andrieux, réalisés par Emmanuel Geoffroy. Merci à Flora, à ses élèves, à Ossian, Christiane, Arnaud, Michel, Kindia, Lina, Jules, Morgane, Marie et ses deux filles, Hector et ses grands-parents, Laetitia, Dominique, Valérie, et à toutes les personnes qui ont accepté de raconter ses premiers souvenirs. L'attachée de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, c'est Lorenzo Cucchiaro.